Pour conclure cet exposé, je vais vous présenter maintenant en deux diapositives nos moyens français de lutte contre cette nouvelle menace et comment nous nous sommes organisés pour y faire face. Avant toute chose, il convient à chacun des intervenants, quel que soit son niveau, que ce soit au niveau de la conception d'une mission de lutte contre les engins explosifs improvisés, ou que ce soit au niveau de l'exécution, de la neutralisation, pardon, de cet engin explosif improvisé. Et il s'agit à chacun des intervenants de bien comprendre la situation dans laquelle il va évoluer, comment il va l'évaluer, pour comprendre au mieux la menace et prendre les mesures qui conviennent. C'est d'ailleurs ce qui est mentionné dans l'ANILAM 9.31, qui décrit effectivement ces process pour la lutte contre les engins explosifs improvisés. Suivant. Donc, au même titre que dans toute action contre les mines, la sécurité des populations et des intervenants doit primer. Pour autant, dans le cadre d'une intervention ou une opération militaire, telle que nous les menons, il y a toujours une part de risque acceptée par nos démineurs. Que l'on soit militaire ou organisation civile, pour intervenir sur des engins explosifs improvisés, la logique reste la même. Préserver la vie, préserver les infrastructures et les biens pour favoriser un retour à une situation normale. Et enfin, pour nous, collecter ou tenter de collecter au mieux des données techniques pour éclairer sur l'analyse de la menace et prendre les mesures qui conviennent pour en diminuer les risques. Pour les opérateurs, les procédés décrits dans la NILAM 9.31 et les procédés que nous décrivons, nous, dans nos formations pour nos opérateurs, sont assez similaires. Il s'agit tout d'abord de prendre des informations, des renseignements sur la situation, sur ce qui s'est déjà passé, pour évaluer au mieux cette menace. Ensuite, il faut bien évidemment intervenir sur l'engin explosif improvisé. Et pour cela, nous avons différentes méthodes. Un travail à distance, d'abord, qu'on va essayer de privilégier avec des moyens robotiques. Une destruction sur place, si les effets de cette destruction ne sont pas trop importants. Et, je dirais, dans le pire des cas, une intervention manuelle de l'opérateur sur l'engin explosif pour essayer de le disloquer ou en tout cas d'en séparer les éléments. À la fin de ça, on est extrêmement concerné par l'exploitation technique de ce qui a été relevé. Et la France a développé, il y a maintenant une dizaine d'années, pour ses militaires, une base de données de suivi événementiel de tous les événements explosifs, engins explosifs improvisés, munitions, auxquels elle a pu être confrontée sur tous les différents théâtres d'opération sur lesquels elle s'est engagée. Suivante. Les standards de l'ONU, donc décrits dans la NILAM 9.31, ne sont cependant pas tout à fait les mêmes que ceux décrits pour les opérateurs sur engins explosifs improvisés français, qui répondent, eux, plus logiquement à des standards opérationnels et des compétences de l'OTAN. En effet, alors que l'ONU séquence les capacités d'intervention sur les engins explosifs improvisés en 4 niveaux, la France n'en décrit qu'un seul, du niveau intervenant. Cet intervenant, une fois formé, doit être capable et est capable de traiter tout type de menaces engins explosifs improvisés. La France et les pays de l'OTAN, pour faire face aussi à cette menace, s'inscrivent dans une démarche globale de stratégie contre IED, nous permettant d'avoir une cohérence d'ensemble, où, sur fond d'information, sur fond de renseignement, nous allons nous attacher à contrer la menace par 3 axes d'effort. Le premier, c'est l'attaque des réseaux, les techniques de fouille, l'investigation criminelle. Le deuxième, c'est bien évidemment la mise en échec de l'engin explosif improvisé, c'est l'intervenant du démineur. Et la troisième, qui n'est pas négligeable et qui intéresse particulièrement tout le monde, c'est la préparation de la force ou la préparation des personnes qui évoluent sous cette menace. et qui consiste en fait à sensibiliser toutes ces personnes et décrire en fait les nouvelles procédures de manœuvre ou d'approche, adapter les comportements individuels et collectifs à cette menace. Donc on a une démarche globale, ciblée, et qui essaye d'être cohérente du début jusqu'à la fin. De façon générale, de toute façon, le point clé restera la préservation des personnes, qu'elles soient civiles ou qu'elles soient militaires. Cela passe irrémédiablement par un programme de sensibilisation des populations au danger, en ayant bien identifié au préalable les menaces locales pour décrire les SOP qui conviennent le mieux au territoire sur lequel la menace a été identifiée. Suivante. Pour conclure, dans le cadre humanitaire ou post-conflictuel, où que l'on soit, la lutte contre les engins explosifs et tout engin explosif, la préservation des personnes et des biens doit être au centre des préoccupations. Car les engins explosifs improvisés et les restes explosifs de guerre privent l'accès aux ressources vitales ou le retour à une situation de paix. La lutte contre les engins explosifs reste cependant une course contre la montre, car nous sommes souvent dans une posture réactive plus qu'anticipatoire. En effet, nous réagissons à une menace, à un événement, plus que nous anticipons les choses. Nous le disions, beaucoup de nouvelles technologies peuvent être dévoyées pour fabriquer des engins explosifs improvisés. Mais ces mêmes nouvelles technologies peuvent aussi servir les intérêts des démineurs et j'ai en tête différents projets de sociétés qui sont assez intéressants comme la mise en œuvre d'essaims de drones avec des capteurs particuliers pour essayer d'identifier des champs de mines ou encore la robotisation qui se développe à grands pas, qui permet d'éloigner l'acte de l'homme, l'acte du démineur, de la menace et faciliter ainsi le travail à distance et la sécurité des personnes. Mesdames et messieurs, ceci conclut notre présentation. Je vous remercie de votre attention. Merci.